le juste. Un homme n'est pas juste s'il juge à la hâte. L'homme sage est celui qui distingue le juste de l'injuste. Celui qui juge autrui en toute connaissance de cause, selon la loi et l'équité, ce sage, éclairé par la doctrine, reçoit le nom de juge. Le sage n'est pas celui qui parle le plus. C'est l'homme compatissant, serviable, vaillant, qu'on appelle un sage. Ce n'est pas en parlant beaucoup qu'on est un soutien de la doctrine. Celui qui sait peu de choses de la doctrine, mais s'y conforme dans ses actes, en est vraiment le soutien. Il ne la néglige pas. Un homme n'est pas un terrain, un ancien, parce que sa tête est grise. N'être vieux que d'années, dit le proverbe, c'est avoir vieilli sans profit. Celui qui possède la vérité, la droiture, la réserve et la maîtrise de soi-même, qui est sans souillure et sage, on peut en vérité l'appeler un terrain. Ni la parole déliée, ni une belle apparence d'honnêteté n'honore un homme qui est envieux, avare et faux. Celui chez qui de telles dispositions d'esprit sont détruites, déracinées, cet homme sage, délivré du passionnel, on dit qu'il est bien entraîné. Quant à l'homme qui reste indiscipliné et menteur, sa tête rasée ne fait point de lui un ascète. Plein de désir et d'avidité, comment peut-il être un samana? Celui qui s'est purgé de tout mal, petit et grand, on peut l'appeler un samana. Un homme n'est pas un bhikkhu simplement parce qu'il demande l'aumône. Il ne suffit pas de prononcer des vœux pour devenir un bhikkhu. Il faut vivre la doctrine. Mais celui qui est au-dessus du bien et du mal, qui mène une vie pure, une vie de savoir et de réflexion, on peut l'appeler un bhikkhu. Un homme silencieux n'est pas pour cela un sage, s'il est ignorant et insensé. Celui qui sait peser le pour et le contre et faire son choix. On peut l'appeler un sage. Celui qui abandonne le mal, choisissant sagement, il est un sage. Celui qui a la connaissance juste des deux mondes, ce monde-ci et le monde futur, à cause de cela, il est appelé un sage. Un homme qui maltraite des créatures vivantes n'est pas un aria. Celui qui a pitié de toutes les créatures mérite d'être appelé un aria. Ce n'est pas par la mortification, ni par un large savoir, ni par la pratique de la méditation, ni par la vie solitaire, que j'ai pu atteindre à la félicité inconnue de ceux qui vivent dans le monde. Ô Bhikkhu, soyez sur vos gardes jusqu'à ce que vous ayez atteint l'extinction du désir. Nous gardons ce dernier texte. Il est intéressant. Ce n'est pas par les mortifications, ni par un large savoir, ni par la pratique de la méditation, ni par la vie solitaire, que l'on atteint à la félicité vraie. C'est en se débarrassant de tous les désirs. Se débarrasser de tous les désirs, n'est certainement pas chose facile. Cela demande toute une vie parfois. Et à dire vrai, cela paraît être un moyen très négatif, quoique à un certain moment du développement, c'est une discipline très utile à pratiquer, indispensable même si on ne veut pas se décevoir soi-même, parce que on commence d'abord par se débarrasser des grands désirs, ceux qui sont tout à fait évidents et qui vous dérangent tellement que vous ne pouvez même pas avoir des illusions à leur sujet. Et puis après viennent des désirs plus subtils qui prennent la forme de choses qui doivent être faites, qui sont nécessaires, parfois même d'ordre qui viennent du dedans. Là, ça demande du temps et beaucoup de sincérité pour les découvrir et les surmonter. Et puis, ces maudits désirs, on en a fini avec eux dans le monde matériel, dans les choses extérieures, dans le monde affectif, dans les choses des émotions et des sentiments, dans le monde mental, pour les aider. Mais voilà qu'on les retrouve encore dans le monde spirituel. Et là, ils sont bien plus dangereux, plus subtils, plus perçants et beaucoup plus invisibles. Et recouverts d'une apparence si sainte qu'on n'ose même plus les appeler des désirs. Et quand on est arrivé à surmonter tout cela, à le découvrir, à le dénicher et à s'en débarrasser, on a encore fait que le côté négatif du travail. Le Bouddha a dit, ou on lui a fait dire, que quand on était libre de tout désir, on entraînait nécessairement dans la béatitude infinie. C'est peut-être une béatitude un peu desséchée, et en tout cas, cela ne me paraît pas le chemin plus bon. Si tout de suite, on prend le problème à bras-le-corps, qu'on se précipite dedans avec courage et détermination, et qu'au lieu de faire une chasse longue, ardue, pénible, décevante au désir, on se donne simplement, totalement, inconditionnellement, qu'on s'abandonne à la réalité suprême, à la volonté suprême, à l'être suprême, qu'on se donne à lui tout entier dans un élan de tout l'être, de tous les éléments de l'être, sans calcul. On dira que pour faire cela, ça aussi c'est difficile. Mais au moins, il y a une chaleur, une ardeur, un enthousiasme, une lumière, une beauté. Et ce grand avantage, que c'est le moyen le plus prompt et le plus radical de se débarrasser de l'ego. Il est vrai que sans désir, il ne reste pas grand-chose pour soutenir l'ego. Mais on a l'impression que la conscience est devenue si racornie qu'avec l'ego, s'il tombe en poussière, quelque chose de soi tombe en poussière aussi, et qu'on est tout prêt à passer dans un nirvana qui n'est qu'une annihilation. Mais ce que nous considérons comme le vrai nirvana, c'est la disparition de l'ego dans la splendeur du suprême. Et ce moyen-là, c'est ce que j'appelle le moyen positif, le don de soi intégral, total, parfait, sans réserve et sans marchandage. Il y a rien que dans le fait de ne plus penser à soi, de penser à ce qu'il y a de plus suprêmement beau. Lumineux, joyeux, puissant, compatissant, infini. Il y a une joie si profonde à ne plus rien rapporter à soi, à ne plus exister pour soi, que rien ne peut être comparé à cette joie. C'est la seule chose qui mérite, qui vaille d'être tenté. Tout le reste, c'est presque des piétinements sur place. C'est la différence qu'il y a entre gravir une montagne en faisant le tour lentement, laborieusement, pas à pas, pendant des siècles, et d'ouvrir des ailes invisibles et de s'envoler tout droit vers le sol.